Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans?
Bonjour à tous.
Bonjour.
J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations comportementales.
Encore les évaluations.
Quand est-ce que tu peux voir Dalma?
J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter.
Il a reçu ton mail, il comprend pas.
Pourquoi vous acharnez sur moi comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait?
Au sommaire aujourd'hui, le travail dans la fiction. Et oui, nous avons décidé de nous attarder sur la manière dont le travail est représenté dans la fiction, que ce soit dans la BD, avec la bande dessinée Le Travail m'a tué, paru chez Futuropolis, dessiné par Grégory Mardon, scénarisé par Hubert Prolongeau et Arnaud Delalande que vous pourrez écouter en interview, ou au cinéma, avec quelques films. Alors, pas de sélection comme ça, on verra dans le débat les films qui vont nous venir. On peut passer d'Elio Petri avec La classe ouvrière va au paradis, jusqu'aux films de Laurent Canté comme L'emploi du temps, Ressources humaines. Enfin, on verra, Le coup près de Costa Gavras, plein de choses comme ça. Quasiment tous les derniers films de Ken Loach. Il y a plein de films comme ça qui peuvent arriver dans notre débat. Et puis, on va faire quand même un petit focus sur ceux qui travaillent, d'Antoine Rusbach, qui est disponible chez Condor Entertainment. Alors, pour causer travail dans la fiction. Alors, je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes qui ne sont pas anonymes. Je crois que je l'ai déjà faite, celle-là. Mais ce n'est pas grave. Je veux bien sûr parler, évidemment, de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour, Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre énergumène présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site culturopoint.com, qui parfois nous fait des infidélités radiophoniques du côté de Radio Campus Amiens avec son émission À l'écoute du cinéma. Salut Thomas.
Salut GG. Salut Damien. Et évidemment, salut à toutes.
Si le travail a été assez, ostracisé dans les fictions pendant un long moment, il est devenu le sujet central de nombreux longs métrages ces dernières années. Je pense par exemple à Corporate de Nicolas Hylol. Je pense par exemple à It's a Free World de Ken Loach. Enfin, plein de films ces dernières années. Mais en littérature, ça fait longtemps que le travail est le sujet de nombreux livres. On peut penser à Zola par exemple. Enfin, qui étaient d'ailleurs à peu près les seuls témoignages populaires sur la classe populaire. En cela, ce sont des auteurs qui sont majeurs. Et puis, il est pas mal présent dans la littérature, le travail, s'il est pas mal présent ces dernières années au cinéma, chose plus rare, dans la bande dessinée, le travail est un sujet rarement abordé, peut-être parce qu'on se dit que c'est un sujet, à la limite, entre guillemets, pas très vendeur, ou tout du moins, assez difficile à concrétiser, à représenter de manière concrète, quoi, sous forme de bande dessinée. Et pourtant, Thomas, il y a, chez Futuropolis, une bande dessinée qui est parue il y a peu, qui s'appelle Le Travail m'a tué, et qui justement parle du travail.
Oui, Le Travail m'a tué, scénarisé par Hubert Prolongeau, Arnaud Delalande, et mis en image par Grégory Mardon, déconstruit un peu le processus qui amène un individu qui est passionné, pourtant passionné par son travail, qui amène un individu au burn-out, puis au suicide. Hein. Donc le suicide, on en parle, le suicide au travail, on en parle beaucoup depuis, depuis le scandale qui a eu lieu à France Télécom et à La Poste, et certainement dans d'autres entreprises dont on ne parle pas ou peu. Chez Renault, hein, je crois que quand Carlos Ghosn a repris la reine de Renault, je crois qu'il y a eu beaucoup de suicides à ce moment-là. Hein, on en a parlé récemment. Hein. Et donc, Le Travail m'a tué parle justement d'un concepteur de voiture, un dessinateur de voiture qui est porté par son travail. Hein, lui, ce qu'il veut faire, c'est construire des bagnoles. Et au fur et à mesure qu'il avance dans l'entreprise, en fait, au bout d'un moment, il n'avance plus. Il ne monte plus les échelons, il ne gravit plus les échelons. Il est de plus en plus déconnecté de ce qu'il fait. On lui confie des tâches auxquelles il n'est pas formé. On lui confie des logiciels qu'il ne maîtrise pas. Et on lui dit de se débrouiller tout seul. Il reçoit des ordres qu'il ne peut pas faire. On lui donne des objectifs inatteignables, tout du moins dans la période de temps qu'on lui a imparti. Et donc, au bout d'un moment, le personnage va perdre pied. Le travail va prendre de la place chez lui, dans sa tête, mais aussi spatialement chez lui. Il n'aura plus de vie de sa famille. Ce qui va l'amener à perdre les pédales et donc à finalement ce qu'on appelle le burn-out et finalement se suicider. Moi, je trouve que c'est une excellente BD. Je trouve que ça démontre bien le processus. Je trouve qu'elle est très bien écrite. Moi, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien les dessins, j'aime bien cette façon d'utiliser le monochrome, hein, parce qu'il y a différentes planches qui ne sont pas toujours de la même couleur. Il utilise du bleu ou des couleurs froides ou des couleurs chaudes selon l'environnement et l'état d'esprit du personnage. En tout cas, c'est une BD que j'ai dévorée, que j'ai trouvée passionnante de bout en bout dans ce qu'elle explique, dans ce qu'elle raconte et ce qu'elle démontre.
Vous écoutez Culture Prohibée. Travail m'a tué, Thomas. Bah, tu as très bien résumé le dispositif plastique hein, mis en place par Grégory Mardon hein, pour illustrer ce scénario d'Hubert Prolongeau et donc Arnaud Delalande, le très prolifique Arnaud Delalande, mais ça tu nous en diras certainement un peu plus, Thomas. Il faut savoir que cette BD, elle part d'un travail journalistique d'Hubert Prolongeau lui-même et Paul Moreira. Qui est une enquête en gros à la rencontre du burn-out, une enquête qui démontre les rouages implacables du management, c'est-à-dire comment un système pour contrôler une entreprise, pour la diriger, on en arrive à quelque chose de totalement fou et abstrait, tu le disais toi-même, avec un salarié pour qui le travail n'a plus de sens parce que la différence entre le travail prescrit et le travail réel est beaucoup trop importante, parce que effectivement les objectifs, comme tu l'as dit, sont inatteignables. D'ailleurs, ce n'est ni de la fiction, ni une enquête, mais j'ai envie de vous renvoyer vers un livre aussi qui est connexe à tout cela, qui s'appelle « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui ». C'est paru chez Gallimard dans la collection NRFSC. C'est un livre de Johan Chapoutot et je... Je vais juste vous lire une phrase de ce monsieur. Hein. Le management a donc une matrice française comme une matrice allemande et le nazisme a contribué à la déployer. C'est passionnant, c'est-à-dire on découvre comment les liens qui existent entre... Parce que Chapoutot, c'est pas rigolo, hein, c'est un véritable intellectuel qui a vraiment travaillé son sujet. Et on découvre comment le management pratiqué en entreprise, ce système très inhumain, en fin de compte, amène des situations telles que décrites dans la bande dessinée. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'on s'aperçoit qu'il puise sa quintessence, son substrat dans l'application du régime nazi au quotidien. À ceux qui se demandent comment on arrivait à faire tourner des camps où on brûlait des gens dans des fours sans aucune justification tangible, réelle, enfin qu'on pouvait prouver scientifiquement, voilà. Pour le comprendre, comment on peut amener des milliers de personnes à travailler au service de la mort, c'est très intéressant et effectivement, ça permet de faire un parallèle et de découvrir aujourd'hui comment les gestions dans les entreprises peuvent donner des systèmes complètement inhumains où chacun écrase la personne en dessous de lui, à tous les échelons. Chacun subit une pression, qu'elle vienne du bas ou qu'elle vienne du haut, à tous les échelons. Et en fin de compte, on ne sait plus qui dirige quoi dans une entreprise, si ce n'est que les actionnaires se font du pognon. D'ailleurs, pour terminer sur une note plus rigolote, j'ai envie de vous renvoyer vers le Louise Michel de Carverne et Delépine, qui traduit aussi très bien ça, puisqu'on voit, on voit qu'une ouvrière dans une entreprise qui ferme, malgré du bénéfice réalisé, décide d'engager un bras cassé pour aller éliminer le principal actionnaire qui les a ruinés. Et puis, en fin de compte, il ne le trouve jamais vraiment. Mais il se venge quand même. Ça, je vous dirai pas comment.
Comme tu l'as dit, c'est après une enquête co-réalisée par Hubert Prolongeau. Hubert Prolongeau, c'est un complice d'Arnaud Delalande qu'on va écouter là. Arnaud Delalande qui est très éclectique, mais aussi très productif. Hein. Il écrit aussi bien des thrillers que des romans fantastiques, dont un qui s'appelle... que je vais me procurer d'urgence, Le piège de Lovecraft. Il y a aussi Le piège de Dante, qui s'inspire des écrits de Dante avec des histoires de tueurs en série, une trilogie. Il a aussi donc fait d'autres bandes dessinées en collaboration avec Hubert Prolongeau, Cagliostro, une sur la jeunesse de Staline. Et là, ensemble, donc, ils ont écrit Le travail m'a tué. Et là, moi, ce que je me suis d'abord demandé, c'est comment un écrivain de roman, d'abord comme Arnaud Delalande, passe du roman à la bande dessinée.
À vrai dire, la proposition aurait pu être inversée parce que, vous savez, ça remonte à loin. Moi, j'avais un très bon coup de crayon quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai commencé presque, non pas par le dessin, mais la bande dessinée était pour moi un prolongement naturel. Alors, en fait, les choses auraient pu se faire en sens inverse. Il se trouve que j'ai démarré avec le roman historique, mais ensuite, c'était plus une question d'opportunités professionnelles, de rencontres, etc. Donc, le glissement s'est fait... C'est fait sans problème, à vrai dire. Ça reste de l'écriture, même si c'est vrai que le média est un petit peu différent et donc il y a une technique qui est différente. Mais comme j'avais aussi travaillé du côté du cinéma, là, pour le coup, il y a des passerelles en termes de découpage visuel, etc. Donc finalement c'était pas très douloureux. C'était même au contraire des espèces de retrouvailles avec mon péché de jeunesse.
Et le fait, donc, je ne sais pas si avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, le roman ou l'écriture de scénario, mais est-ce que le fait d'écrire une bande dessinée, donc de travailler avec d'autres personnes et d'avoir peut-être moins de contrôle sur le résultat final, est-ce que quelque part c'est frustrant ? Est-ce que c'est un autre défi pour vous ?
Ben, je verrais plutôt dans le sens inverse là aussi parce que, au contraire, c'est une forme d'accomplissement. D'abord, dans le roman, on travaille tout seul. Alors, on se fait son film tout seul, mais c'est un petit peu monacal comme activité. Donc, c'est bien aussi de pouvoir partager. Et c'est très, très satisfaisant quand vous avez écrit un scénario qui passe ensuite entre les mains des dessinateurs, d'avoir cette espèce de restitution visuelle, de voir comment lui a pensé les choses. D'autant que j'ai eu certains de mes romans qui ont été adaptés en bande dessinée. Et alors là, c'est particulièrement étonnant et appréciable quand vous avez un dessinateur qui arrive à restituer presque ce que vous avez dans la tête. C'est quasi miraculeux à certains moments. Alors, on discute, bien sûr, on valide ensemble. ensemble, c'est ça l'intérêt, mais du coup, c'est bien aussi parce que c'est un travail en équipe. Et au niveau du scénario, c'était pareil, puisque là, en l'espèce, c'était avec Hubert Prolongeau, mais c'est vrai que ce sont des collaborations que je fais avec, j'essaye en tout cas, avec discernement, dans le sens où ensuite, quand on écrit à quatre mains, il faut bien, pouvoir bien s'entendre, voilà, et se faire confiance, et puis avancer de manière équitable, etc. Donc, il se trouve que là, ça s'est passé, et ça se passe à chaque fois sans aucun problème.
Alors justement, vous parlez de collaboration, vous dites que que c'est quelque chose que vous aimez par rapport au partage. Et comment avez-vous défini, avec Hubert Prolongeau, l'esthétique de la bande dessinée ?
Alors l'esthétique, à vrai dire, c'est quelque chose de collectif. D'abord, elle tient beaucoup au dessinateur qui est Grégory Mardon, hein, qui a fait un travail remarquable. Et donc c'est lié à ses choix graphiques et particulièrement de mise en scène. La particularité étant, à la différence d'autres scénarios, que là on n'avait pas un découpage case à case, mais par séquence, si vous voulez. Donc il a une assez grande latitude dans le traitement graphique du scénario, et bien sûr de l'éditeur, puisque c'est l'éditeur aussi qui met son grain de sel, met en relation les gens, et on réfléchit ensemble à quelle serait la meilleure approche graphique pour tel ou tel sujet. Et donc c'est là aussi un travail de collaboration.
Alors, avec Hubert Prolongeau, comment êtes-vous intervenu avec Grégory Mardon ? Vous lui avez donné des indications, vous avez beaucoup discuté tous les trois. Est-ce qu'il y a eu des choses, des désaccords ou des choses sur lesquelles vous étiez déjà en accord au départ ?
On était, alors avec Hubert, il n'y avait pas de problème, hein, comme on en discutera sans doute. On a commencé par travailler à partir de l'enquête qu'il avait menée, qui s'appelait « Travailler à en mourir » avec Paul Morera. Hein, donc on avait cette matière de départ. Donc ensuite, on a fait, c'est pas le premier album qu'on fait ensemble, parce qu'on a fait d'autres sur la jeunesse de Staline, par exemple, ou sur Cagliostro avec différents éditeurs, ou sur Hitler et Staline. Et là, on s'est réparti le travail à quatre mains déjà, hein, un peu comme on a la coutume de faire. Et puis ensuite, on se fait des navettes, c'est-à-dire il y en a qui fait un bout, l'autre, et puis on se renvoie, on se corrige mutuellement, on s'insulte, et puis après, on fait la version finale. Et du côté de Grégory, on ne connaissait pas, donc on a vu le travail qu'il avait fait. Et puis ensuite, comme souvent, il a fait quelques planches de démonstration, on va dire, pour voir quelle serait un peu l'orientation. On a parlé aussi du traitement de la couleur, parce qu'on ne voulait pas, après, le traité ou le traitement soit trop réaliste. Donc c'était parfait, parce que c'était à mi-chemin. Vous voyez qu'on est souvent dans des couleurs orbichromies, quasiment, hein, avec des variations de couleurs selon les humeurs et les moments de la descente aux enfers du personnage. Donc, mais il a eu un traitement qui était assez libre, Grégory, et qu'on a trouvé avec Hubert très efficace et intelligent sur le plan narratif.
Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Hubert Prolongeau. Vous-même, en tant qu'auteur, vous avez touché différents genres, le roman historique, même le roman fantastique, le thriller, même des approches plus de société, avec ce roman sur les humanitaires.
Oui.
Comment est venu, à quel moment est venu la volonté de travailler sur le thème du travail ?
Alors, à dire vrai, j'avais été très sensible à l'enquête en question. Bon, il se trouve qu'Hubert, on se connaît depuis longtemps. Lui aussi, il fait du roman historique, etc. Donc, il y a des passerelles. Et on se tient au courant de nos parutions respectives. Alors, il m'avait passé son enquête quand il l'avait faite avec Paul. Et donc, à ce moment-là, j'avais été particulièrement touché par le sujet. Et on a assez rapidement eu l'idée de voir si on ne pouvait pas en faire un traitement graphique, voir un film, parce qu'il y a aussi ça dans l'air. Mais un traitement graphique qui permette d'aborder des choses qu'on ne peut pas aborder dans le cadre de l'enquête. Donc ça, on en a discuté assez rapidement. Par contre, ça a été assez long à se mettre en route, le temps qu'on trouve l'éditeur, le temps qu'on puisse trouver le bon angle d'approche aussi pour le projet. Donc ça a été un processus un peu long. C'est vrai que c'est une problématique ou un thème dans lequel personnellement je verrai moins souvent ou rarement, hein, vous disiez l'humanitaire ou les thèmes de société contemporains. Mais là, ça m'a touché aussi pour des raisons plus personnelles. Tout le monde s'est trouvé dans des situations professionnelles particulièrement délicates à tel ou tel moment. Il se trouve que j'ai eu dans mon entourage aussi des gens qui avaient été victimes de burn-out, et donc on commençait à mettre des mots sur ce malaise, enfin sur la question de l'épuisement au travail, si vous voulez, et de tout ce qui en découle. Et puis il y avait l'actualité des procès qui commencent des procès, des suicides, dont on parle depuis quand même maintenant longtemps. Et donc tout ça faisait, on va dire, une espèce de terreau favorable, et puis on a senti qu'il y avait à la fois une espèce d'urgence à en parler et un thème vraiment préoccupant et qui touche les gens de près aujourd'hui.
vous écoutez Arnaud Delalande.
Quand je lis la BD, j'ai l'impression que ça s'inspire quand même d'une histoire vraie. Alors, est-ce que c'est un mélange de plusieurs histoires, de plusieurs expériences, de plusieurs témoignages ?
Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'enquête, sont répertoriés différents suicides, hein, donc différents profils de gens qui se sont retrouvés dans cette situation de travailler jusqu'à en mourir. Alors, ce qu'on souhaitait faire, et c'est justement ce que permet la passerelle de la bande dessinée ou du roman graphique, c'est une sorte de, j'allais dire, de prototype ou d'archétype, hein, qui permettait de reprendre, on va dire, le profil type, si j'ose dire, si jamais il y en a un, et de repérer les schèmes de structure. Ce qui nous intéressait, c'était le processus aussi, de voir comment est-ce que quelqu'un de tout à fait normal, normalement constitué, voilà, qui a priori n'a pas de problème au travail, justement, ni dans sa vie conjugale ou domestique, et qui tout à coup va perdre les pédales au point de se donner la mort. Alors ça, évidemment, c'est un sujet fascinant et terrible. Donc il s'agissait de démonter le processus, et c'est vrai qu'on a travaillé à partir de, il y en a un en particulier chez Renaud, mais on a ensuite travaillé à partir de plusieurs destins, si vous voulez, on a essayé de recomposer à partir de là le parcours qui pourrait être le parcours le plus emblématique.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le temps de trouver un éditeur, etc., pour enfin mettre en branle la BD, est-ce que ça a été compliqué de proposer un tel sujet à un éditeur ? Est-ce qu'il y a un tabou autour du thème du travail ?
Je ne pense pas que ça se pose en termes moraux, vous voyez, à ce niveau-là. Parce que, au contraire, à la limite, comme c'est un sujet sensible et qui touche beaucoup les préoccupations contemporaines, on pourrait se dire qu'il y a un appétit naturel, hein, de même que le traitement journalistique sur le sujet. Voilà. Mais non, c'est davantage des questions plus prosaïques, c'est-à-dire que c'est un album qui est fatalement anxiogène. Hein, on ne va pas parler, là, ce n'est pas la mélodie du bonheur ou Mary Poppins, quand même. Donc c'est un livre qui va pas être facile à monter, dont on n'est pas sûr qu'il trouvera son public immédiatement. Donc c'est plus ensuite un pari économique aussi, et puis artistique naturellement, en premier lieu, parce qu'il faut pouvoir trouver l'attelage qui correspond. Et traiter de ce sujet, ça supposait, c'est la plus facile une fois que c'est fait, mais on a pas mal tourné autour de la face de l'angle, comme on dit, hein, dans le journalisme, justement, c'est-à-dire la façon d'aborder ce sujet pour qu'il soit qui nous paraisse le plus efficace et le plus intéressant.
Mais pourtant, c'est un sujet de société. Il commence à y avoir des ouvrages, des bandes dessinées, des films qui tournent autour du travail.
C'est-à-dire que du travail, on en parle tout le temps, mais c'est la souffrance au travail dont les contours sont plus difficiles il a déterminé. Alors c'est vrai que ça s'est construit aussi au fur et à mesure. Il y a eu naturellement le jeu là aussi médiatique, c'est-à-dire que on parle de vagues. Hein. Alors comme dit souvent Hubert, ça donne l'impression qu'entre les vagues il y a rien, mais il y a un mouvement continu. Hein. Donc il y a eu des suicides, ils n'ont pas arrêté. C'est pas parce qu'on n'en parle plus dans les médias que tout à coup il n'y en a plus aucun et que ça revient. Voilà, tous les 3 ans. Donc ça a commencé avec 2008-2009 où tout à coup ça a été vraiment mis en lumière. Et à ce moment-là, les questions ont commencé à tomber au sujet de cette souffrance au travail, mais qui a aussi pris le visage, si vous voulez, d'une forme de bilan aussi, hein, qui était mûr pour être mené à ce moment-là, c'est-à-dire le bilan de 30 ans de management depuis les années 80, en gros, hein. Et donc, ce sont des temporalités qui sont plus longues que celles de l'instantané. Ensuite, évidemment, pour mettre la BD en route ou faire un film, vous imaginez bien qu'il faut 2, 3, 4 ans parfois. Donc, il y a aussi ce temps-là qu'il faut prendre en considération. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant davantage de sensibilisation. Et puis, parce que les gens ont mis du temps à partager leurs expériences aussi, je pense que cette question du d'épuisement au travail, c'est généralisé. Enfin, en tout cas, heureusement, par bonheur pour nous tous, c'est pas la majorité, mais ce sont des cas de plus en plus répandus, et donc les gens ont aussi appris à en parler, à mettre aussi des mots sur ces. Il a fallu que les sociologues s'en mêlent, que les intellectuels s'en mêlent, que les journaux s'en mêlent, que les artistes s'en mêlent, et puis que les premiers concernés, c'est-à-dire que les gens qui l'ont vécu, puissent mettre des mots sur cette souffrance, sans avoir le sentiment d'être coupable, d'être humilié, parce que c'est un des ressorts évidemment puissants de cet épuisement professionnel.
en fait, le travail, bien sûr, par rapport à la souffrance, mais aussi, je pense à la remise en cause du travail en tant que se définir comme individu dans la société, pour se placer dans la société. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé à un moment où, parce qu'on est énormément sur Terre, qu'on est beaucoup, qu'il y a beaucoup de chômage, est-ce qu'il ne faut pas repenser la société et repenser la place du travail au sein de la société ?
C'est-à-dire que du point de vue philosophique, la question a toujours été la même. Le travail n'est pas une fin en soi. Le travail, il sert à l'accomplissement de soi et de son entourage et du monde. Voilà, c'est le fameux fruit du travail. Or, ce qui se passe et qui est à la source, ensuite on peut discuter des différents aspects, mais au fondement de ce problème, il y a quand même la perte de sens du travail. Et donc c'est ça qui est en cause, c'est-à-dire que vous ne vous reconnaissez plus dans le management, vous ne vous reconnaissez plus dans votre boulot, quand tout à coup le sens de ce que vous faites finit par vous échapper en vous disant « mais finalement je trime, mais pourquoi faire ?» pour le gain de qui ? Est-ce que c'est effectivement parce que simplement ça permet d'avoir un salaire, de faire vivre la famille, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce concept qui est celui de l'aliénation du point de vue philosophique qui reste pour le coup exact. C'est-à-dire que quand vous avez le sentiment que vous êtes dépossédé des fruits de votre travail, qu'il n'y a aucune reconnaissance, que le sens de votre travail se perd, que vous n'avez plus accès aux fruits de ce travail. Par exemple, Carlos, dans notre bande dessinée, il est privé du contact avec les voitures qu'il a lui-même créées. Il les découvre une fois qu'elles sont dehors. Et donc, il est perpétuellement, au bout d'un moment, il ne sait plus pourquoi il travaille. Et cette perte de sens, elle est vraiment au cœur de la question de la souffrance au travail. C'est-à-dire que tout à coup, le travail devient, au sens propre, insensé, quoi.
Vous écoutez Arnaud Delalande, scénariste de la bande dessinée Le Travail m'a tué, paru chez Futuropolis.
Vous avez abordé tout à l'heure la question des suicides et des procès qui en ont découlé. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un résultat historique de procès lié à l'entreprise France Télécom. Mais c'est parti, en fait, des CHSCT. Et aujourd'hui, le pouvoir en place a supprimé, enfin, puis le précédent aussi, a supprimé, en fait, les CHSCT. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, le travailleur, il est démuni, quelque part, face à ce phénomène que vous décrivez dans la bande dessinée. Il est encore plus démuni, parce qu'il n'a plus le CHSCT pour pouvoir rester en justice, pour pouvoir réfléchir, faire des expertises sur le sujet.
C'est vrai que, de toute manière, il y a une question qui se pose, qui est celle des outils, de manière générale, je veux dire pour dépister, pour pouvoir signaliser, pour pouvoir se rendre compte quand il y a des gens qui sont dans une telle souffrance. C'est très difficile parce que les premiers intéressés ne partagent pas forcément. Alors donc, il y a des symptômes, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça dépend d'une espèce de responsabilité collective. Alors, il y a les délégués du personnel, il y a ce qui existe en termes syndicaux, il y a les alertes qui peuvent être données aussi simplement de personne à personne. Hein. C'est vrai que ça dépend beaucoup des contextes professionnels parce qu'il y a des situations où c'est facile de s'exprimer auprès de la hiérarchie. Il y en a où c'est très, très compliqué, mais pas seulement de la hiérarchie, même à l'horizontale, avec des collègues de travail, on n'a pas envie de passer pour, voilà, ou de se faire humilier, donc de se sentir en tout cas humilié. Donc ces signaux d'alerte sont difficiles, on n'est pas dans des zones franches, on est dans des zones grises, hein, et c'est pour ça que vous abordiez la question juridique, mais ça a été le même problème. Alors ça a été quand même une grande victoire à ce niveau-là, même si elle est modeste, double. D'abord la première reconnaissance, c'est ce dont on part dans la BD, là, c'est-à-dire que tout à coup, la reconnaissance d'une responsabilité d'entreprise dans le suicide, hein, parce que la difficulté, si vous voulez, c'est jamais la personne. C'est même pas le N+1 ni le N+2, parce que chacun, ils ont leur pression, puis vous pouvez remonter comme ça jusqu'à la direction générale. c'est l'organisation du travail. Et c'est ensuite un mode intentionnel de management qui en vient à la mort. C'est ça qui est en cause. Mais vous êtes dans des zones qui sont, c'est après, comme pour les sectes ou le harcèlement sexuel ou moral, parfois ce n'est pas si simple. Et donc, c'était très difficile de caractériser juridiquement la question. Or, il y a eu quand même jurisprudence, du coup, avec cette reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise, premièrement, et puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé récemment avec France Télécom. Les peines sont légères comparées au préjudice, hein, mais enfin, symboliquement, c'est très important. Après, sur le plan pratique, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué pour le moment d'avoir le vademécum, le mode d'emploi, pour à la fois, parce que l'idéal, c'est la prévention, évidemment, hein, pour pouvoir justement s'apercevoir pouvoir faire un recensement des signaux, si vous voulez, de mise en d'alerte quand il y a des mises en péril de ce genre. Ça dépend, comme toujours, si vous voulez, les organisations, c'est des organisations humaines, ça dépend aussi de l'humanité des gens qui sont autour de vous et de la capacité à reconnaître, répondre en face de collaborateurs ou d'amis qui se trouvent dans des situations pareilles pour les aider, le cas échéant, le moment venu. Donc ça, c'est sûr.
Et toujours dans la remise en cause du travail, est-ce qu'il n'est pas urgent justement de le remettre en cause à l'heure actuelle, alors qu'on parle de plus en plus d'écologie, d'effondrement, etc.
Disons que on pourrait faire l'analogie avec le PIB, si vous voulez. Ça dépend de la nature de l'indicateur, encore une fois. C'est-à-dire que si vous considérez que dans le PIB, vous oubliez, par exemple, tout ce qui est d'ordre du développement durable ou de l'écologie, comme vous dites, etc., est-ce que c'est vraiment un indicateur fiable? Vous voyez, c'est l'ambiguïté sur la réussite. Donc on pourrait faire ce même diagnostic du point de vue du travail. Qu'est-ce que réussir dans son travail? Est-ce que le travail ne doit pas inclure justement cette dimension de ce point de vue-là? Vous avez raison, le travail doit être accompagné d'une réflexion sur la qualité du travail ou sur le prix qu'on met dans le travail et puis sur à qui profite le travail, c'est certain. Donc en effet, c'est un changement, sans vouloir jargonner, de paradigme culturel ou d'indicateur, ce qui doit réintroduire la notion de qualité du travail comme elle peut l'être dans la question de la réussite professionnelle ou simplement du modèle économique, de la réussite économique. C'est-à-dire que est-ce que la réussite économique, c'est uniquement la productivité et le profit, ou est-ce que ça doit inclure une dimension écologique, en considérant que l'écologie est aussi un profit à long terme, si vous voulez. Parce que c'est pas mal en soi, la productivité, c'est pas mal en soi, le profit. Ça dépend pour quoi faire, à qui ça sert. Et voilà, l'écologie, c'est profitable aussi, hein, sur la longue période, et même sur la courte, puisque maintenant, les temps s'accélèrent. Donc, il y a certainement, de ce point de vue-là, en effet, un travail à faire d'ordre culturel et de conscience et de responsabilité partagée. Alors ça, c'est en cours, mais évidemment, c'est très long, quoi.
Dans l'ouvrage, moi, je constate qu'il y a l'utilisation de couleurs froides parce que c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans l'ouvrage, en fait, et par case, en tout cas. Et il y a des couleurs froides qui sont liées au monde de l'entreprise au fur et à mesure que Carlos, tombe en dépression. Et à un moment, ces couleurs froides finissent par se répercuter dans sa vie au quotidien, alors qu'elle était source de couleurs chaudes. Elle était, il était papa, tout ça, il était heureux. Et à un moment, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé avec le dessinateur, ou bien c'est comme ça, c'est lui qui a eu cette idée?
Oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans le sens où on était assez vite convaincus en discutant avec lui qu'il ne fallait pas un traitement saturé de couleurs criardes, si vous voulez, ça c'est sûr. Mais ensuite, plus profondément, il s'agissait d'accompagner cette descente aux enfers, y compris de ce point de vue de la couleur. Et donc, il y avait un glissement qui devait s'opérer vers le crépuscule et vers une contamination de l'entreprise, plutôt de l'univers quotidien, par la froideur de un peu mécanique, justement, de cette espèce de mécanique quasi totalitaire, d'ailleurs, qui s'abat sur le personnage. Donc ça, dans l'intention, ça y était. Après, il faut dire, rendre César qui est à César, c'est-à-dire que Grégory a choisi de lui-même les enchaînements de palettes de couleurs et a, sur la base de l'intention, si vous voulez, il a, je sais pas comment dire, ventilé, découpé l'histoire en sachant varier le ton et en trouvant justement les moyens d'accompagner cette espèce de descente vers le crépuscule en jouant avec intelligence de ces codes-là, en effet souvent de la bichromie, des couleurs froides et avec des cadres qui se resserrent et puis avec une contamination, c'est ça, de ce qui fait la chaleur de la vie par tout à coup beaucoup plus de noirceur, de froideur, voilà, jusqu'à la fin.
Vous écoutez Culture Prohibée. Après cet entretien très riche avec Arnaud Delalande, hein, donc on rappelle co-scénariste avec Hubert Prolongeau de la bande dessinée Le Travail m'a tué, paru chez Futuropolis, dessiné par Grégory Mardon. Nous, on va parler un peu du travail, de la manière dont il est représenté dans la fiction, parce que ces dernières années, on a vu pas mal de films. Hein, ça, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on peut dire qu'il y a une sorte de cycle qui s'est lancé avec Ressources humaines de Laurent Canté en 1999. Film passionnant d'ailleurs, hein, très très intéressant. Qui a continué comme ça jusque encore très récemment avec Ceux qui travaillent. Donc encore un film sur le travail d'Antoine Rusbach qui est disponible chez Condor Entertainment, qui est disponible depuis peu en Blu-ray et DVD, et qui est un film vraiment particulier parce qu'on y suit Olivier Gourmet. C'est un cadre sup tellement important dans sa boîte, hein, une boîte qui s'occupe de fret, de transport de marchandises, tellement important que il en est un des rouages essentiels. On se demande même pourquoi il n'est pas associé d'ailleurs, qui est un type presque une sorte de psychopathe très froid, toute sa vie elle est rangée, ordonnée par des rituels identiques chaque jour, même heure, un jour il prend une décision dans le cadre de son travail, une décision assez horrible humainement, hein, vis-à-vis de laquelle d'ailleurs il se remettra jamais réellement en cause, voilà. On comprend que ça a toute une incidence, parce que le film raconte ça ensuite. Hein, c'est quand même cette décision qui va faire qu'il va être licencié, mais en fait, elle va servir de prétexte, parce qu'il est justement très important dans l'entreprise, et puis c'est le moment de le virer. Parce que si on le vire plus tard, il aura beaucoup trop d'ancienneté, il coûtera beaucoup trop cher à virer. Donc c'est le moment pour le dégager. Et il fait une erreur et on devine que ses associés en fait attendaient qu'il fasse une erreur depuis fort longtemps pour le dégager, et il fait cette erreur. Voilà. Et c'est le parcours de cet homme qui perd son emploi alors que une conseillère d'un cabinet qu'il emploie pour retrouver du travail lui explique même qu'il ne peut s'épanouir que dans le travail, qu'il est fait pour ça. C'est un type sans empathie, c'est un type, quand je dis psychopathe, j'exagère pas, c'est un tueur froid au boulot. Voilà, il fait pas de sentiments. Donc le genre de type qui est recherché dans les postes de direction dans les entreprises, parce que s'il faut prendre une décision, il saura la prendre rapidement. Voilà. Et c'est le parcours de cet homme, donc plutôt antipathique, type plutôt antipathique qu'on va suivre au quotidien. Un personnage qui peut d'ailleurs évoquer celui du couperet de Costa Gavras et qui peut aussi évoquer celui de l'emploi du temps. De Laurent Canté, qui était pour moi un immense film, c'est mon film préféré de Laurent Canté, qui est inspiré de l'affaire Roman, parce qu'à un moment dans le film, il y a aussi ce côté très affaire Roman, on se demande s'il ne va pas descendre sa famille pour échapper à son mensonge. On ne le sait pas, il y a un moment, le doute est dans le film, voilà. Je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, Damien, de ce film qui est dans un univers quand même assez particulier, quoi.
Oui, il se tient éloigné des films que je fréquente habituellement et vers lesquels je cours immédiatement dès que j'apprends le nom du réalisateur ou du film ou même le sujet qui s'y trouve. Donc je me suis confronté à ce film que j'aime. Il m'a pas transcendé, mais je le trouve très intéressant sur plusieurs points. Pour revenir à ce que tu disais, quand il se fait virer, c'est très intéressant comme scène, notamment parce que on comprend, enfin, il explique bien la situation en expliquant qu'ils ont perdu, grâce à lui, ils ont gardé de l'argent. Et c'est une scène assez ubuesque où ils viennent, ils lui expliquent qu'ils vont se séparer de lui, mais qu'ils ne vont pas le virer. Et du coup, c'est à lui-même de démissionner. Et du coup, plus tard, on lui demande, vu que ce qui s'est passé n'est pas révélé, même si sous-entendu que tout le monde va être au courant. Et du coup, il y a un moment où il parle avec quelqu'un, il fait « Mais je comprends pas, t'es ultra haut dans la hiérarchie, t'es bien placé, tu vas devenir associé comme tu le disais, tu vas te faire un max de pognon, et qu'est-ce qui t'a poussé à finalement démissionner, parce que ça c'est un non-sens pour les autres. Et il y a un truc qui est très vite installé au niveau du personnage, et à mon avis c'est ce qu'il définit le mieux, c'est qu'au début du film il parle à l'un des copains de sa fille et il lui explique que dans le monde il n'existe que deux types de personnes, ceux qui travaillent et les autres. Et c'est un film assez cynique vu que lui va se trouver dans la situation où il était sûr de faire partir de ceux qui travaillent, ceux finalement qui tenaient bon bout, il se retrouve parmi les autres. Et du coup pour lui c'est une perte de repère total, il a une confrontation assez violente à la réalité où il se rend compte que son manque de compétences dans les autres domaines l'oblige finalement à rester dans ce domaine du fret et il ne peut pas faire grand chose. Finalement c'est une désillusion pour lui du monde du travail et ce qu'il en faisait. Et j'aime beaucoup la façon dont finalement ce film parle du chômage et des différentes classes sociétales, mais également de l'âge qui sont impliqués dans les rapports qu'ont les entreprises et le travail lui-même à tout. Il y a un fait par contre qui m'a un peu surpris, c'est que même s'il se retrouve viré, à aucun moment dans le film, on ressent vraiment qu'il a peur d'être à court d'argent. C'est comme si finalement c'était pas un truc qui alimentait le film, où finalement son travail était plus un passe-temps pour lui-même que vraiment une façon de se rémunérer. Et ce que j'aime beaucoup dans le titre, c'est-à-dire ceux qui travaillent, donc déjà tout le monde a déjà dû entendre, mais travail renvoie à un mot latin qui renvoie lui-même à un appareil de torture. Donc finalement, le travail, c'est un peu torturer le corps. Et comme on l'a entendu précédemment, c'est un peu une torture qui finit par nous tuer. Et ce que j'aime beaucoup dans le titre, donc ceux qui travaillent, c'est que finalement, le titre renvoie à nous, personnes de tous les jours. Et finalement, le film s'adresse un peu à nous quand il dit ceux qui travaillent. Donc autrement dit, nous qui travaillons.
Moi, je pense qu'il n'a pas de problème d'argent parce qu'il est très riche et qu'il a un peu d'argent d'avance. Et je pense qu'il est très riche. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'il est pas dans les, il ne vit pas dans les mêmes sphères que nous. Thomas, moi, j'ai envie de, pour citer Olivier Gourmet, je lui dis travailler plus pour gagner plus. T'en penses quoi, toi ?
Travailler plus pour gagner plus. Je travaille beaucoup, mais je ne gagne pas beaucoup plus. Mais... Ceci dit, effectivement, ceux qui travaillent renvoient à l'engin de torture. Et ce que je vois dans ce film-là, c'est l'inhumanité du travail. C'est-à-dire, la décision qu'il prend est une décision inhumaine. Et il y a cette longue séquence à la fin où on voit que le travail a des répercussions non seulement inhumaines sur l'individu, mais sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, il y a une longue séquence que je trouve très antonionienne, avec ces usines en arrière-fond qui recrachent de la fumée, qui font beaucoup penser au désert rouge d'Antonioni. Et il y a aussi ce mouvement de caméra quand ils sont dans le supermarché qui montre à sa petite fille, voilà, ça c'est mon travail. Et en fait, lui, en tant qu'organisateur de frais, de frais maritimes, il montre tout ce qu'il amène dans un supermarché. Et donc tout ce qu'on consomme dans un supermarché, on ne se rend pas compte, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est ramené par des navires qui polluent énormément, etc., et qui peut-être aussi défrichent des forêts en amont, ou on défriche des forêts pour avoir tel produit, etc. Et donc là, je trouve qu'il y a une mise en abîme qui est vertigineuse dans ce film, qui montre que le travail mène finalement l'humanité à sa perte. Voilà. Et je trouve que ce film-là, c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu, j'y pense encore. Par contre, je regrette, c'est la mise en scène que je trouve... un peu à la mode, film indépendant, Sundance, etc. J'aime pas trop, mais je trouve que le film, il est extrêmement profond et vertigineux.
Écoutez Culture Prohibée, spécial Travail dans la fiction.
Je pense que dans la mise en scène, je suis d'accord avec toi, le scénario est brillant. Hein. Voilà, l'écriture du film est brillante parce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé aussi, c'est le rapport avec sa famille. D'ailleurs, quand il remonte la chaîne de production en fait, de son boulot, La question se pose encore. Il le fait parce que sa gamine, elle doit faire un stage dans la boîte de ses parents. L'une de ses gamines, parce qu'il a beaucoup d'enfants qu'il ne connaît pas. En fait, il les connaît pas. Il essaye de se rapprocher de ses enfants pendant la période où il est à la maison. On se rend compte que les seules relations qu'il a avec ses enfants, à part avec la dernière, la petite dernière, sont d'ordre matérialiste. C'est-à-dire, il y a un fils qui veut le dernier iPhone, tout ça. Enfin, il n'a pas de vraie relation avec ses enfants. Ils ne le connaissent pas. Il bosse tout le temps. Donc, il n'a pas de vie affective avec ses enfants. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il fait avant d'annoncer à sa femme ce qu'il a fait, c'est de lui faire l'amour. Donc on peut penser que ce rapport charnel, en fait, avec sa femme, n'est peut-être pas si fréquent que ça. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, il y a plein de choses qui sont dites. Et donc, il y a ce rapport à sa famille. Il retrouve son oncle. Enfin, l'oncle de la petite fille, son frère à lui, hein, qui tient un entrepôt, justement, où sont entreposées les marchandises. Et quand sa fille a le dos tourné, il lui parle d'une manière très crue. En gros, fumier, qu'est-ce que tu viens me faire chier, voilà. En gros, on comprend qu'il s'est, sa manière de procéder. On voit là qu'il vient d'un milieu très populaire, en fait, de travailleurs, quoi, de gens de lumpen prolétariat, des gens qui ont les mains dans la merde, et que lui s'en est extirpé, en écrasant les autres, en devenant quelque part inhumain. Il a un côté inhumain et Gourmet arrive presque à le rendre attachant à certains moments, ce qui est pas ce qui est une sacrée performance. Et pour terminer sur la mise en scène, moi je voulais dire Thomas, moi je pense que c'est un film qui subit peut-être, je sais pas si c'est un film Sundance avec la caméra qui tremble un peu, tout ça. Je pense que c'est un choix de mise en scène. Moi je le vois un peu comme peut-être le réalisateur, il subit peut-être un peu trop l'influence des frères Dardenne. On sent qu'il aime le cinéma des frères Dardenne. Il reprend Olivier Gourmet, hein, qui est l'acteur révélé par les frères Dardenne. Et c'est une sorte, moi, pour moi, ce film de Rosetta, en moins speed, en moins énergique, mais de Rosetta, sauf que Rosetta, c'est un cas de sup. En plein désarroi, et c'est Olivier Gourmet qui est d'ailleurs filmé de dos comme un gladiateur qui rentre dans l'arène quand il va prendre sa douche au début du film, l'un de ses premiers rituels, parce qu'en fait il a toujours les mêmes rituels. Donc de ce côté-là, la mise en scène me paraît logique. Par contre, moi j'avoue qu'à certains moments, les parties prises de mise en scène m'ennuient. Voilà.
Il y a des belles choses à la mise en scène, il y a des idées, c'est pas ce que je veux dire, c'est que déjà elle est moins mobile que chez les frères Dardenne. Mais c'est une caméra qui bouge tout doucement, hop, on la fait trembloter un petit peu, et ça c'est très... Je trouve que c'est une affaîtrie qui m'insupporte, on voit ça dans beaucoup de films maintenant. Mais sinon, moi je terminerai sur ce film en disant qu'il y a une fausse happy end, parce que le dernier plan, il montre quand même que c'est quand même un dernier plan qui est très pessimiste et qui est très critique vis-à-vis de la société de consommation actuelle.
Moi, c'est un film que je mettrais en parallèle parce qu'il m'a beaucoup fait penser à ce film-là, en moins maîtrisé. C'est L'emploi du temps de Laurent Canté sur l'affaire Roman, film de 2001, que je trouve extraordinaire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Un film extraordinaire. Où, en gros, l'affaire Roman, vous savez, ce type qui disait qu'il était un médecin super connu à sa famille, puis qui, en fait, arnaquait sa famille, disait à la famille qu'il plaçait de l'argent et tout, sauf qu'il ne plaçait pas de l'argent. Il vivait avec, il partait le matin, il disait qu'il allait bosser à Genève, qu'il était médecin pour l'OMS, et qui a fini par tuer toute sa famille. Enfants, femmes, tout ça, qui a refait un peu la une de l'actualité, parce que sa libération là, vient d'être prononcée il y a peu de temps. Eh bien, il en avait tiré un film, Laurent Canté, qui était extraordinaire. C'est Aurélien Recoing qui fait Roman dans ce film-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Canté, il base tout son film autour du rapport au travail. C'est une injonction au travail dans une société capitaliste qui fait qu'on est obligé de travailler pour être un être humain accompli. Et c'est hyper intéressant parce que ce qui fait que... Parce que dans le film de Canté, on peut le dire tout de suite, il ne tue pas sa famille. Il crée autre chose. Et on voit ce type qui est là, dans sa voiture, sur les parkings, la journée. Parce qu'en fait, il a dû s'ennuyer, Roman, quoi. C'est ça que se dit Canté, quoi. Il a dû s'ennuyer, il ne travaillait pas. Donc, on sait qu'il avait des maîtresses, tout ça et tout. Enfin, voilà, qu'il avait d'autres vies, mais c'est terrible. Et Aurélien Recoing, il est fabuleux. Et le film se termine un peu comme celui-ci. C'est-à-dire qu'à la fin du film, Aurélien Recoing... Et dans un entretien d'embauche,
Il y a un incroyable plan de cinéma qui est sublime, avec la caméra qui se resserre sur le visage d'Aurélien Recoing. Et Aurélien Recoing répond comme un robot, il est déshumanisé, il sait exactement ce qu'il faut dire pour être embauché, parce qu'il est lui-même quelqu'un de brillant, et il est face à un recruteur, et c'est une scène absolument bouleversante. Et c'est pas très loin du choix que fait le personnage incarné par Olivier Gourmet dans Ceux qui travaillent, où il choisit quand même d'être encore pire que ce qu'il a été. Voilà, il choisit, j'en dirai pas plus, il choisit d'être encore pire que ce qu'il a été, de basculer encore plus loin dans l'ignominie. Et si avec ça je vous donne pas envie de voir les deux films, au moins ces deux-là, voilà. On est pris par le temps, mais je pense que c'est un sujet qui mérite effectivement, peut-être qu'on y consacre d'autres émissions, d'autant plus que l'emploi du temps, un peu comme Ceux qui travaillent, c'est aussi des films qui sont à la limite du thriller, où on est pas très loin du cinéma de genre, quelque part. On est même dans le cinéma de genre pour l'emploi du temps, on est dans le thriller, hein. Puisqu'il y a même le vrai ex-tolard Serge Livrosé qui est dans l'emploi du temps. Et je pense que ce sont des films à redécouvrir. Et j'ai envie de dire, je suis triste, qu'est-ce que je préférais le début de carrière de Laurent Canté au film qu'il fait maintenant, voilà. Mais bon, il a choisi sa voie, c'est un metteur en scène qui a choisi de parler d'autre chose, d'évoluer sur d'autres sujets. Mais moi, je trouve que L'emploi du temps est un film fabuleux, donc je vous le conseille également.
Je n'ai pas revu le film récemment, Le coup près de Costa Gavras, mais par contre, j'ai lu le roman de Donald Westlake. Et je trouve que c'était un roman d'une pertinence incisive sur le chômage, comment ça rejoint un peu Ceux qui travaillent. Hein. On est vraiment dans la même thématique sur le chômage et les incidences du chômage sur l'individu, sur sa personnalité, mais aussi sur son entourage, sur sa vie de famille, sur sa vie sociale, etc. Et aussi sur le fait que le travail, ou du moins vouloir travailler à tout prix, rend parfaitement inhumain.
Si je tuais 1000 actionnaires, ça ne me rapporterait rien. Si je tuais 10 PDG ayant renvoyé 1000 employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais ? Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces 5 CV étaient mon problème. Ces 5-là, plus ma chevère.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en baladodiffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.